Alors, je reviens à cet épisode de la fondation du sionisme politique. Il est arrivé ce drame épouvantable que pour pouvoir sauver le peuple juif en tant que peuple, il fallait détruire les synagogues, parce que les synagogues, c'était le piège où l'antisémitisme allait coincer les juifs. Et est-ce que vous avez compris que c'est problème ? Alors, il en est arrivé une attitude de haine réciproque entre les uns et les autres. Les supporters de Joseph ont commencé à haïr les supporters de Judas, les rabbins, et réciproquement. Les uns accusant les autres, vous perdez notre âme, la Torah, les autres, vous perdez notre corps, les juifs. Et cette haine réciproque n'a pas complètement... Ça s'atténue un peu. On essaye de la transposer sur d'autres problèmes. Mais c'est ce drame-là dont parle le Rav ici, ce grand deuil qui apparaît. Et vous voyez comment le Rav l'explique. Il arrivera que ceux qui se mettront au service du salut de la nation, à cause de nos fautes, dit-il, finiront par devenir les ennemis de la Torah de cette même nation. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est clair, jusque-là, je ne voudrais pas risquer de ne pas être compris clairement. Et la haine est dans les deux sens, elle est récente. Énormément de drames de l'identité procèdent de cette problématique. Par exemple, je l'avais peut-être cité une fois, le fait que dans beaucoup de kibboutzim qui ont été fondés par les gens de cette génération qui ont sauvé la nation juive en tant que telle, maintenant nous sommes d'une génération qui est née après. Et on n'a plus l'expérience contemporaine de cette mutation d'identité qui a fait que l'identité juive, qui s'était habitué à devenir strictement individuel au niveau de la vie privée, est subitement sorti de la clandestinité en tant que nation. On est né après. Enfin, pas les gens de ma génération, mais une bonne partie de l'autre. D'un certain côté, il y a un privilège d'être né après, on est rentré dans le monde où il y avait déjà Israël. Mais de notre côté, on ne saura jamais qu'est-ce que c'était que le monde où il n'y avait pas Israël. Vous comprenez le propos ? Ce qui fausse les données du débat. Et puis même, ceux qui ont vécu cette mutation avaient les yeux fermés. Et ils ont des yeux, ils ne voient pas comme dit. Eux, ces fondateurs du sionisme politique, avaient reçu une éducation de la Torah à l'échelle individuelle. Ils en étaient détachés parce qu'ils étaient devenus sensibles au destin de la collectivité, de la naissance de Joseph. C'est clair ? Rappelez-vous une petite parenthèse pour les un peu plus érudits. Ce qu'on nous raconte à propos du Hodor, que lorsque Aaron a voulu constituer ce symbole que le Erevra lui demandait pour s'y reconnaître en tant qu'entité nationale reconstituée, il a pris un creuset où il a mis les anneaux d'or qu'il avait demandé à chaque chef de famille. Il avait demandé aussi ceux des femmes, mais les femmes n'avaient pas voulu, vous vous rappelez de cela ? Et puis les anneaux d'or, c'était l'indice de l'identité familiale, tribale. Au niveau des sociétés de ce temps, ça veut dire chaque clan se reconnaissait au genre d'anneau qu'il y avait, d'ailleurs, soit dans les narines, soit dans les oreilles. Vous connaissez ça ? Donc les indices, non ? Mais dans toutes les sociétés. Et vous savez que l'esthétique est toujours dérivée de données anthropologiques beaucoup plus mystiques que simplement la beauté extérieure. Alors c'est très beau, ces scènes que nous avons encore en Afrique ou en Écosse d'ailleurs, c'est devenu des jupes, mais en fait, de chaque famille, chaque tribu, ou en Alsace par exemple, vous aviez les... C'est quoi l'Alsacienne, mais moi je ne suis pas Alsacien, mais j'ai appris. Où chacun reconnaissait le village d'après la manière de faire le nœud de la coiffe. Alors ça, c'était les anneaux. C'est-à-dire de faire une identité collective à partir de la multiplicité des identités individuelles. C'est sur le même thème que le sacrifice de Pascal à la sortie d'Égypte, où les familles devaient se reconstituer pour s'identifier et ensemble faire la collectivité, ce qui n'avait pas fait Le sacrifice pascal étant en dehors de la collectivité, ils étaient restés en Égypte. Vous vous rappelez de cela? C'est assez parallèle. Alors le Midrash nous dit qu'il a mis tous ses anneaux d'or à fondre dans le creuset et il a jeté un nom. Quel nom? Joseph. C'est clair? Vous comprenez mieux ce. Vous l'avez lu dans Rashi, je sais. Non? Les deux. Alors, les femmes n'ont pas voulu participer à cela. Et parce que, si vous voulez, c'est un terme très important qu'on appelle le terme des Nashim Sadkaniyot. À chaque moment vulnérable, comment dire, dangereux, de passage dans l'histoire de l'engendrement messianique, de l'identité d'Israël, Israël est sauvé par les femmes. Toujours. C'est, vous pouvez refaire toute l'histoire des mères d'Israël et vous verrez que chaque moment où il y a grand danger, les femmes interviennent. En particulier, à la génération de Moïse, qui c'est grâce à sa mère et à sa sœur qu'Israël a été sauvé. Vous vous rappelez de ça? Et je crois...
Le premier anneau, c'était pas celui des déserts à Rebecca?
C'est, disons, une scène d'illustration de cela. Oui. Il y a proposé l'anneau, et elle a accepté. Nezem Zahar. En particulier, et je pense que nous sommes, je dis ça très très en passant, si vous voulez, dans 25 ans, on fera un séminaire là-dessus, et je crois que nous sommes dans un temps très analogue, où les chances de régénération de l'identité juive passent aussi par les femmes. Dites pas ça aux rabbins, parce qu'ils ne vont pas croire. Que... En tout cas, c'est notre problème. Et là, n'allons pas trop loin. J'explique. Elles n'ont pas voulu participer à cette idolâtrie. Et la récompense a été que le miroir dans lequel, la cuve dans laquelle les prêtres devaient se purifier avant le sacrifice a été faite avec les miroirs des femmes. Vous avez étudié cela? Le Midrash raconte que lorsque Dieu dit Amarot Atzorot, prends les miroirs des femmes d'Israël et tu feras la cuve des reines pour la purification des prêtres, la plus haute sainteté. Le Midrash dit, Moïse est étonné. Comment cet instrument du diable avec lequel les femmes se fardent, et il arrive tout ce qu'il arrive après les phares. Et avec ça, tu veux que. Alors Dieu lui répond, c'est grâce à ces miroirs qu'Israël a surgi. Parce que les Hébreux étaient dans les camps de concentration en Égypte, ils revenaient fatigués du travail, mais grâce aux miroirs qui faisaient que les femmes s'embellissaient, il y a eu des enfants d'Israël. J'ai dit ça comme il faut. Et voilà un exemple en passant. Nahon, mais c'est relié au même thème. Ces anneaux-là, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Les anneaux, ce n'est pas important. C'est ce que les oreilles entendaient.
Et dans ce Myriam a sauvé le peuple.
Parce que voilà, lorsque la persécution en Égypte a commencé à devenir terrible, les grands d'Israël de cette époque, et à leur tête Amram, le père de Aaron et Myriam qui étaient déjà nés, Moïse n'était pas encore né, avaient décidé ce qu'on appelle le suicide cosmique, de ne plus avoir d'enfants. Puisque si tous les enfants d'Israël qui naissent allaient devenir les briques des pyramides, alors, et quand on lisait tous ces midrashim avant le nazisme, on se disait, bon, imagination talmudique. Mais les nazis ont fait la même chose. Alors, donc ça veut dire que c'est vrai que les hommes puissent faire ça. Et alors ils ont décidé d'arrêter d'avoir des enfants, et c'est pourquoi, dit le midrash, Aaron s'est appelé Aaron, parce que c'était Aharon, le dernier. Et puis, le Midrash raconte que Myriam avait rêvé qu'un enfant naîtrait qui sauverait la situation. Et alors, elle est allée dire à son père Amram, qui était le chef de Sanhédrin, qui avait décidé en arrêt, dire, toi tu es pire que le pharaon. Parce que le pharaon a décidé de tuer les garçons, mais de laisser vivre les filles. Et toi tu veux tuer les filles et les garçons, en les empêchant de naître. Et puis le pharaon, finalement, ne leur enlève que ce monde-ci. Mais toi, tu leur enlèves et ce monde-ci et le monde à venir. Puisque pour arriver au monde à venir, il faut passer par ce monde-ci. Tu les laisses pas naître, tu leur enlèves tout. Alors, semble-t-il, Amram a longtemps réfléchi. Et il a dit, bon, ben, peut-être que c'est un rêve prophétique. Et le texte de la Torah enchaîne. Vayelechish mi Bet Levi, Vayikach mi Bet Levi. Il a repris, s'est remis en ménage avec sa femme. Et Moïse. Mais c'est Myriam qui est interdite. Plus tard, lorsque le pharaon va décider de tuer les sages-femmes, c'est Yochevet et Myriam qui ont réussi à assurer la perpétuation de l'enfant. C'est un peu ça. Mais on reste dans le cours du matin, hein, pas hier soir.
Non,
attendez, c'est le risque qu'un certain nationalisme juif se substitue au Dieu d'Israël. C'est ce risque-là. Et je crois que au niveau des réalités sociopolitiques, nous vivons ce risque-là. Pas en Israël, dans le cosmopolitisme qui essaye de substituer la notion idolâtre du peuple juif en tant que tel au Dieu d'Israël. Parce qu'en Israël même, il n'y a aucun risque de nationalisme avec le sens de ce mot en Europe.
Mais qui
exactement
a
choisi ce mot? Aaron. Oui. Nous n'avons pas ici maintenant un séminaire sur la faute du vaudeur, mais vous pourrez l'avoir. Mais c'est important cette question. Et vous savez que le totem, si j'ose dire, de Joseph, c'est Chor. Chor, ça veut dire le taureau. Et Joseph a été béni dans la bénédiction de Jacob, Bechor Choro Hadar Lo. C'est-à-dire Jacob a donné à Joseph, en tant que premier-né par Rachel, donc cette fonction du premier-né au niveau de la nation, l'effigie, si vous voulez, du taureau, qui est le vaudeur, hein, lorsque ça se substitue.
C'est pas le bœuf.
C'est-à-dire que, ici je ne voudrais pas faire trop d'astrologie, mais on était sorti du signe du bélier et on entrait dans le signe du taureau. Hein. Non, c'est ça. J'ai dit, je ne voudrais pas faire trop d'astrologie, mais suivez bien le. C'est-à-dire qu'il est évident que du point de vue de l'idolâtrie que ça représente, c'est une idolâtrie de substitution astrologique d'un signe du zodiaque au créateur. Mais quelle est la signification de. En astrobiologie, et quelle est la réalité au niveau de la vie qui correspond à cette force cosmique, c'est ce que représente Joseph en tant que la nation des Hébreux. Et quand la nation des Hébreux se coupe de la Torah, apparaît l'idolâtrie du vaudeur. Et chose. En effet, quand il y a eu le schisme, le royaume d'Éphraïm a pris comme idolâtrie l'idolâtrie du vaudeur. Qu'est-ce qu'elle veut représenter là? C'est Joseph coupé de Juda complètement, la nation juive, se substituant au Dieu d'Israël. Et encore une fois, je tiens à préciser, ce danger existe. Et c'est ce que je vous appelle le cosmopolitisme juif, coupé de la Torah. Je me souviens il y a très très longtemps d'avoir entendu déclamer. Je ne sais plus si c'est à Paris ou à Jérusalem, je crois que c'est à Paris. Oui, une soirée de l'Union mondiale hébraïque, comment ça s'appelle, la Brit Milah Olamit. Ça existe encore?
Oui.
Alors il y avait un carian, comment on dit ça, je ne sais plus parler. Un speaker. Non, c'est pas exactement ça. Comment on dit quelqu'un qui déclame des poèmes? récitant, oui. Il déclamait un poème de Tchernyakhovski. L'hébreu véhicule de l'identité nationale, mais coupé de la Torah. Et dans ce poème, il y avait le vers suivant, le verset suivant, si vous voulez. Entendez bien, c'est pas moi qui parle, c'est Tchernyakhovski. Shema Israël, Israël Elokeinu, Israël Echad. Ça, c'est Joseph devenu idole. Vous avez compris? Alors, bon, s'il n'y a pas d'autre que ça, ok? C'est un airain, oui. En fait, il y a trois niveaux, l'airain, l'argent et l'or. Faire des divinités en airain, en argent et en or, symboliquement, c'est pas exactement le même niveau d'hypostase. Et la divinité en or, et là il faut nuancer, n'est pas une divinité qu'on veut vraiment substituer au Créateur, mais qu'on veut adjoindre comme médiateur. Le verset dit, Elohe kesef lota asulachem, Elohe zahav lota asuiti. Vous entendez en hébreu la différence. Et vous savez cette calomnie, les juifs le redorent, mais on pense à l'argent. C'est tout simplement. C'est tout simplement qu'ils étaient pieux. Alors ils faisaient leur idole en or, parce qu'ils étaient pieux, parce qu'ils étaient cupides. Bon. Mais là, ce que vous êtes exigeant. L'idole en argent est une idole qu'on veut substituer au vrai Dieu. C'est au niveau argent. Alors demandez-moi maintenant les reins. Eh bien, les reins, c'est une idole qu'on sait que c'est pas une. Et là, je vais vous dire, ce sont les trois niveaux. Mais j'explique pas, hein, je dis pour ceux qui ont appris cela, Kesef, c'est Mitata Chesed, Zahav, c'est Mitata Din, et comment on dit les reins, je vous dis. Nechoshe, Nechoshe, c'est Mitata Raham. Bon, j'ai dit que j'expliquerai pas. Hein? Non. Si vous voulez qu'on répète, je vais prendre la cassette. Bon, j'allais dire, il n'y a qu'une seule répétition, c'est la répétition. Allez, on revient. Vous, où est-ce que j'étais arrivé? Ah oui. C'était donc cette illustration que je voulais donner, que finalement, cette rupture entre ces deux forces est totale. Alors, premièrement, ceux qui s'adonnent à la résurrection de la nation comme telle deviennent les ennemis de la Torah. « Vechol darkei akdusha amiyuchadim isgulat Israël apratit » et ils s'opposent à tous les comportements de sainteté spécifiques de la spécificité d'Israël à l'échelle individuelle, en particulier. Vous avez compris l'idée. Vechen mishe sam magamato, et de même, corollairement, celui qui place son objectif, les yesod aïtiahdut aïsraélit, dans le fondement de ce qui fait la spécificité d'Israël, c'est-à-dire la Torah, naasa ayedeze atzmo, il fait par la même de lui-même minneged ou mitnaged. Menaged. Menaged ou mafria, il se fait opposant et obstacle les chol tikkun homri klali, à tout tikkun qui concerne la matérialité générale d'Israël. Vous voyez avec quelle précision aveuglante le Rav nous explique 50 ans à l'avance ce qui nous arrive. Hein. Je pense que c'est clair. Cher Alié Dézé, que par ce biais, mais avoir misé, au-delà de cela, Narasa Ratsim, des brèches s'ouvrent partout. Vous vous rappelez du verset qu'a cité Michel Prince hier, nous avons étudié avec Maïmonide hier après-midi déjà. Les Il faut faire attention à Israël. Lorsque des brèches s'ouvrent, c'est du brigandage. Les uns se font brigands contre les autres. Mais abamisé, mitgalé chulchat, veratzvut, ou de kaout, lev. Et au-delà de cela, va se dévoiler une faiblesse, atzvut, une nervosité, qui signifie aussi d'ailleurs mélancolie, ce même mot, et une dépression de cœur. Ça veut dire un état d'amertume, un état de d'énervement. Enfin, comprenez-nous. Omnam, cependant, Ahare anisayon aharon shel sibat meniat akiyum shel Meshia ben Yosef, après la mise à l'épreuve, l'épreuve dernière de la raison qui empêche que le Meshia ben Yosef advienne, itbonenu hakol. Tout le monde comprendra, chez Behemet, qu'en vérité, enkan kochot mitnagdo, il ne s'agissait pas là de forces qui s'opposent. Ça veut dire, lorsque seront épuisées toutes les stratégies qui empêchent d'apparaître le Mashiach ben Yosef, c'est-à-dire tous les antisionismes, si j'ose dire, pour parler en termes contemporains, alors on découvrira qu'en réalité, ces deux forces n'étaient pas par nature opposées. Mais chez Raoul, les Achnis, Akol, Behoveret Ahat, et qu'il est convenable, et qu'il faut, et qu'il est souhaitable, en même temps, de rassembler, faire pénétrer tout sous la même rubrique, ou Sader d'Arkeauma, et de, je dirais la même rubrique, non, c'est plutôt la notion de Hevra qui est dans la même confrérie, disons, et de préparer les chemins de la nation comme telle, Beofan, chez Kol Shichlul Klali, Yé Bassis, les Shichlul Haïsraeli Amiura. De telle sorte que toute amélioration à l'échelle de la collectivité devienne fondement, Bassis, Yeson, base, véhicule d'amélioration du caractère particulier d'Israël qui est la Torah. C'est-à-dire de reconnaître que les réalités nationales sont les véhicules des réalités spirituelles. C'est-à-dire, au fond, pour reprendre encore tout ce vocabulaire, c'est d'abord de découvrir que le judaïsme est une doctrine d'une nation avant d'être celle de communautés qui rassemblent des individus. Et c'est cela qui s'était atténué, oublié, perdu, occulté à travers 2000 ans d'exil. Nous avons dû vivre une longue histoire héroïque de résistance des individus. À la longue, on a perdu l'idée nationale. Et donc, lorsque l'idée nationale avait surgi pour sauver ce peuple d'Israël, les individus étaient contre. Enfin, ceux qui étaient devenus des spécialistes de la spiritualité individuelle étaient contre en y voyant l'horreur de l'abomination de la désolation. Vous suivez ? Vetria, Vetriye, aidez-moi à lire parce que je ne sais pas. Vetriye, Ahakara, et alors apparaîtra, il y aura la reconnaissance de Hesron, Aitztarfut, Mishneh Tzadim, de ce manque du lien des deux côtés, Ben, Minanoti, Mahareh, Homriyut, entre d'une part ceux qui suivent la tendance au niveau de la temporalité, de la klaliut et de la collectivité, ben me'anotim, soit entre ceux qui suivent la tendance, ahare aruchaniut, après la vie spirituelle, ben pratiut et la vie privée. Alken, c'est pourquoi, yia mispet gadol mishneh tzadim, et c'est pourquoi ce deuil sera grand des deux côtés. C'est-à-dire, ce deuil est grand parce que Joseph prend le deuil de Judas qui lui manque, et Judas prend le deuil de Joseph qui lui manque. C'est clair ? Chez Yakirou, mais lorsque ce deuil sera expérimenté, c'est le commencement du salut. C'est-à-dire, lorsqu'on fera ce diagnostic, alors apparaîtra la reconnaissance, ils reconnaîtront chez Yesh, Taout de Yesod, qu'il y avait une erreur fondamentale de Yesod en Éthiot, dès le fondement de chacune de ces tendances lorsqu'elle était exclusive l'une de l'autre, chez Benouyot, Liot Mitachdim, parce que leur leur manière d'être, leur structure. Elles sont faites pour être unies. Parce que, je ne sais pas comment le dire, la nation d'Israël sans sa Torah, ça n'existe pas. Nous avons eu tous les exemples de l'histoire où toutes les tentatives de fonder une nation d'Israël sans la Torah, ça a fini par se perdre. Et par exemple, le royaume d'Israël du Nord, qui était la nation d'Israël sans la Torah. Et la Torah d'Israël sans la nation, ça n'existe pas. Et nous avons toutes les expériences de l'histoire, y compris la notion de l'israélite français, la Torah d'Israël, soi-disant, enfin la confession mosaïque, sans la nation d'Israël, et vous savez très bien que l'israélitisme français a disparu systématiquement, et il est artificiellement ressuscité par l'arrivée des immigrés, en particulier d'Afrique du Nord. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et qu'au fond, le judaïsme français, ça n'a jamais existé. Il y a une population juive en France qui perpétuellement redevient israélite français, c'est-à-dire peuple et cimetière. Bon, et les synagogues, il faut pas arriver au cimetière. Et je vais d'ailleurs rendre hommage à un très grand israélite français qui vient de disparaître, qui est peut-être le dernier des Mohicans, si j'ose dire, mais c'est un hommage que je lui adresse. C'est Robert Sommer, Zichrono Livracha, et qui, toute sa vie, a voulu rester fidèle, là ça me permet d'ouvrir une parenthèse, à l'enseignement de son maître, qui était le grand rabbin Libère, et qui lui était le porte-parole, un grand ami Chacham d'ailleurs, que j'ai connu personnellement, vous avez entendu parler du grand rabbin Libère, le porte-parole de cette position, qui avait été une des stratégies du peuple juif en Europe occidentale pour survivre. Il était originaire de Varsovie. Et je ne sais pas si de sa part il y avait eu une espèce d'exagération de son nationalisme français, puisqu'il était polonais, mais il a été le porte-parole de cette position. Je suis persuadé que si le grand rabbin Libère assistait à la vie hébraïque de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants en Israël, il serait probablement un chef du parti ultra-sioniste, ultra-religieux. Mais il ne faut faire jamais parler des morts. Mais la fidélité de Robert Sommer à l'enseignement de son maître, qui a été son beau-père d'ailleurs, de Robert Sommer, a fait qu'il a vécu à la fin de sa vie un drame épouvantable que je vais vous raconter parce que ça mérite d'être compris. Et ceci indexé au fait qu'il a été, dans la génération, jusqu'à il y a quelques jours, le porte-parole de cette position-là, alors que personne au consistoire n'y croit. Est-ce qu'il y en a encore un autre ? Non, je pense que c'est vraiment le bon. Et je dois vous dire d'ailleurs que Robert Sommer était rabbin, Talmid Chacham, tzaddik. Et bien voilà, toute sa famille, tous ses enfants, tous ses petits-enfants sont des Israéliens convaincus, partagés en je sais pas quoi, 13 parties différentes, parce que c'est une famille, Dieu bénisse, innombrable. Et alors, il est normal qu'on ne soit pas exactement comme l'autre, parce que sinon, vous serez la différence entre les cousins. Mais ils sont tous hébreux. Et alors, il avait demandé expressément que si il lui arrivait de mourir en Israël, bon, la halakha est que, quand quelqu'un meurt en Israël, c'est interdit de l'enterrer ailleurs, puisque la halakha est comme ça, il s'enterre en Israël, mais que s'il mourait en France, il voulait être enterré à Paris. Sa femme était d'accord, puisque c'était son mari, dit d'accord, mais tu sauras que le deuil sera pris à Jérusalem. Et le deuil a effectivement été pris à Jérusalem. Ça ressemble un peu à tout ça. Et pour dire cette espèce de quoi je parlais à ce moment-là, ah oui, cette espèce d'illusion de croire que non mais rappelez-moi où j'étais sorti.
Les possibilités de
oui, mais pourquoi j'ai parlé de ça? Non, ça se garde. Hein? Ah oui. Oui, que le deuil est des deux côtés. Quoique je ne vois pas encore bien le lien, mais enfin.
Le deuil de la stratégie de l'exil, oui. Et tu as parlé du pays français comme une des stratégies. Oui.
Oui, oui, pour illustrer. Et avec non, d'ailleurs, je crois qu'il y en a un autre, c'est tout simplement mon frère bien-aimé, Michel Prince, la gaulliste. Et qui a un processus assez analogue, d'ailleurs. La fidélité à quelque chose qu'il a entendu avant que ça se passe. C'est une attitude effectivement de deuil, parce que Robert Sommer a vécu avec quelque chose qui lui manquait, et ce qui lui manquait c'était Jérusalem. La preuve, c'est que tous ses enfants et ses petits-enfants l'ont compris, ils sont tous à Jérusalem, mais un peu autour. Et inversement, il est évident que, alors là je reviens à ce que je n'ai pas terminé tout à l'heure, quand je vous ai parlé des fondateurs du sionisme, ceux qui ont fondé le sionisme, qui sont maintenant les âgés, très âgés, mais les grands leaders de l'idéologie sioniste laïque anti-Torah. C'est eux qui ont forgé les instruments qui ont permis à la nation de ressusciter comme telle. Je vous raconte une petite anecdote. Lorsque Mitterrand est arrivé à Jérusalem, j'ai participé à la réception que la Knesset lui a faite, et j'étais assis à côté du Mevaker Medina, le contrôleur à la Cour des comptes, je ne sais pas comment on dit ça.
Ombudsman.
Oui, on a fait connaissance. Un juif de Lituanie, de la même bande que Teddy Kollek, vous voyez à peu près le genre de statut. Alors, on a fait connaissance, il m'a demandé de quoi je m'occupe, je lui ai dit, l'enseignement de la Torah. Il dit, ah, je vais te dire quelque chose, tout ça en info. Eh bien, nous, on s'est trompé. Et nous, ça veut dire quoi? Ceux qui avions étudié dans les yeshivot, mais qui avaient quitté les yeshivot en claquant la porte pour sauver les juifs, et nous avons jeté la Torah avec, maintenant nous voyons nos petits-enfants complètement déjudaïsés en hébreu, on ne sait plus comment faire pour les ramener à la maison. Alors aidez-nous. Voilà. Vous voyez le drame. Des deux côtés, il y a un deuil. Maintenant, c'est clair. Bien. Je vais vous dire qu'on les aide, mais c'est pas facile. Ok.
Il y aurait plus de descendants fils du grand sénégal du Saint-Louis de Napoléon.
Ah, à quel dites-vous? Je me suis occupé de la dernière.
Vous voyez qu'il en reste un ou deux.
Pardon? Je ne sais pas qui vous pensez exactement. Moi, je pense aux descendants du président du Sanhédrin Napoléon, Furtado.
Furtado, oui.
Oui. Et j'ai eu à m'occuper en France, d'ailleurs, de la dernière descendance que j'ai reconvertie du christianisme au judaïsme. Mais c'est quand même une tragédie.
Le Milan est installé à Jérusalem depuis des années.
Qui donc?
La petite fille de l'ancien président de la République, Milan.
Ah, Milan, une juive?
Et sa mère, la femme de Milan était juive.
Donc elle est juive.
Et Claire Milan, elle vous invite, elle s'est installée à Jérusalem depuis des années. Moi, je l'ai connue tout à fait par hasard.
Enfin, le drame de la famille Furtado, qui est aussi le drame de la famille. Comment s'appelle donc la famille du grand rabbin?
Furtado?
Rappelez-moi, j'ai oublié. Non, oulala, c'est encore une autre famille. Rappelez-moi celui qui est Lippmann, le commandant Lippmann. Son père était le grand rabbin. Et ils sont mariés ensemble, ces deux familles. Alors, tous les descendants de la famille, ça s'appelle la clala des rabbins français, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, sont morts ou chrétiens. En particulier, il y avait une des descendantes qui était la supérieure du couvent de Nancy. Ou chrétiens, ou de mort violente, et la plupart de maladies mentales, ils restent à faire. Parce que, je veux dire ça un peu sous forme de blague, ils ont joué fidélité à la France jusqu'à la mort, ils ont réussi. Bien, ceci pour dire qu'il y a une. Ne croyez pas que c'est péjoratif ce que je dis là, je suis officier de réserve de l'armée française. Moi je m'en suis sorti. Mais la stratégie en question était une stratégie possible au moment où elle a été inventée par les responsables du Sanhédrin de Napoléon, et puis ça a été finalement un échec. L'histoire juive est passée ailleurs. Elle est passée par la réaction des chefs politiques des communautés d'Europe centrale et d'Europe orientale, et d'ailleurs peut-être pour une explication très simple, c'est que, il me semble en avoir parlé déjà dans ce séminaire, peut-être, mais je vais le reprendre, c'est que, en France, au temps où la Révolution française avait décidé de fonder le nouveau régime, c'est-à-dire de donner l'égalité des droits civiques à tous les habitants du territoire, parce que dans l'ancien régime, n'avaient les droits civiques sujets du roi que ceux qui faisaient partie de la nation française et de la religion chrétienne, catholique d'ailleurs, très exactement. Et parce que la Révolution française, avec une bonne foi et une générosité, une honnêteté totale, a décidé d'appliquer le programme de la Constituante, de la Constitution, et avait à résoudre le problème des Juifs et a offert aux Juifs de prendre une décision sur la question suivante: à quelles conditions accepterez-vous d'entrer dans la nation française pour avoir l'égalité des droits civiques? La Première République n'a pas eu le temps, elle avait trop de coalitions à repousser, c'est l'Empire de Napoléon Ier qui finalement s'est occupé du problème, et c'est lui qui a donné la condition, à condition de quitter la nation juive et de devenir membre de la confession religieuse israélite. Une telle stratégie, et le Sanhédrin de Napoléon a discuté 3 ans pour savoir quoi répondre, parce que c'était plein de problèmes cette proposition. C'est la première fois qu'une communauté juive quittait la nation juive en continuant à se prétendre être juif. Juste à présent, énormément de juifs avaient quitté la nation juive, mais ils avaient quitté le judaïsme. Et je crois qu'il y a 2 raisons. Premièrement, ce qu'on leur offrait, c'était pas rien. C'était la nationalité française de l'époque, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. C'est un moment de l'histoire universelle, la Révolution française. C'est la première fois qu'on commence à parler d'une société fondée sur un projet moral et plus sur un projet de puissance. Ça a échoué, ça a capoté, mais l'idéal est resté, et c'est celui-là. C'est le modèle, c'est la Révolution française. Et donc, il y avait de quoi être séduit. Il y avait de quoi être séduit jusqu'à essayer de voir une analogie entre ce dont parlaient les prophètes de la Bible et ce dont parlait la Première République, tout simplement. Vous vous souvenez encore, juste au dernier des discours du grand rabbin Kaplan, qui était resté lui aussi un symbole de l'israélite français, lui, sioniste, pas comme Sophie, est très français puisque d'origine russe, pour sa part. Lui a... Mais c'est comme ça qu'on fait les bons Français. Et chez les Juifs. Et a toujours établi ce parallèle auquel il y croit. Et il y croit de bonne foi qu'il y a d'un côté les 10 commandements de la loi de Moïse et de l'autre côté la Constitution française et que, c'est moi qui ajoute, c'est la même chose. Mais je voudrais dire, première explication, il y avait de quoi être séduit. Imaginez en ce temps-là, pour les Juifs en particulier, ce que pouvait être la proclamation des droits de l'homme et des citoyens qu'on leur offrait avec un passeport français, 2000 ans après Rome. Il y avait de quoi supposer que, le Messie de la fin des temps, et bien en attendant, l'ERTSATS qu'on nous propose, la citoyenneté française, ça vaut le coup. C'est clair. Que le jeu en vaut la fin. À ce moment précis de l'analyse, j'ai l'habitude de raconter une petite anecdote que je vais vous raconter. Mon premier voyage en France, parce que vous savez peut-être que je suis né de l'autre côté de la Méditerranée. Et on appelle ça en Israël le sud de la France. Mon premier voyage en France était un cadeau de bar mitzvah. Mon cadeau de bar mitzvah. Alors j'arrive à l'âge de la bar mitzvah, on débarque sur le quai, je vois une scène, ça se passait à Port-Ventre ou à Marseille, je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est à Marseille. Le bateau s'appelait la ville d'Alger. Et vous vous rappelez de tout ça, El Mansour, les Algériens. Et alors, j'arrive sur le quai, je vois une scène qui est restée dans ma mémoire et qui m'a expliqué ce problème. Il y avait une chaise avec une pile de journaux, dessus une petite assiette avec des pièces de monnaie. J'ai contemplé cette scène pendant 10 minutes. Je me suis dit, dans ce pays, le Messie est déjà arrivé. Parce que, et j'allais dire chez nous en Algérie, mais enfin chez eux en Algérie, il y a longtemps qu'il n'y aurait ni chaise, ni journaux.
C'est Marseille maintenant.
Marseille maintenant, je ne sais pas comment ça se passe, les Algériens sont arrivés. Enfin, les Juifs. Alors, simplement comme illustration de ce qu'a pu être le choc d'identité, des Juifs de toute l'Europe et du monde entier d'ailleurs, entendant cela, liberté, égalité, fraternité, et on vous donne une carte d'identité. Il y avait de quoi, le jeu, on va la chance, il y avait de quoi y croire. Je pense que c'est bien. Bon. Et alors, le contrat était très clair. Napoléon était un grand homme d'État. Le contrat était très clair. Je sais que juif, c'est la nation. Je ne veux pas le savoir. Juif, ça sera la confession religieuse israélite avec les protestants et les catholiques à l'époque. Aujourd'hui, il faudrait ajouter les musulmans. Mais... Et puis, les autres familles spirituelles de la France, les autres courants philosophiques. Parce que Napoléon savait très bien qu'est-ce que c'est un juif. Mais, juif à la maison, à la synagogue, et puis français dans la cité. Est-ce que vous acceptez cet accord? Ils ont accepté. On va jouer le jeu, on va tenir. Mais c'était la fable du pâté d'alouette, je ne sais pas comment on dit ça. La moitié un cheval, la moitié une alouette. Et une alouette. Parce que le poids spécifique de la culture française dans la cité française était tel, et il est tel, que dans la maison juive, fût-ce la synagogue, ça ne tient pas le coup. Vous comprenez? Et alors très rapidement, l'assimilation a commencé, alors que les fondateurs du consistoire des Israélites de France et d'Algérie, qui s'appellent encore, voulaient jouer le jeu, c'est-à-dire on traversera ce temps jusqu'à l'arrivée du Messie avec cette grande gloire d'être français. Je pense que c'est la première fois. Là, et puis on s'est fait avoir parce que c'était un pari intenable. J'ai d'ailleurs l'expérience de sociologie contemporaine de toutes les familles juives. Je vais vous donner un petit exemple. Un des grands drames, c'est pas tellement l'assimilation, ça se rattrape. Parce que finalement, un juif assimilé du point de vue de la Torah, finalement on peut le rattraper du point de vue de Joseph. Ou l'inverse. Finalement, vous savez très bien que la promesse de l'indélébilité de l'identité juive, on la récupère au moment de la résurrection. C'est un autre problème. Mais il y a un grand drame, c'est celui des mariages mixtes. Et les instituts de sociologie qui s'en occupent, j'ai oublié le nom, je crois que c'est le docteur, c'est un Italien qui s'occupe de ça, un juif italien, hein? De la Pergola. Sont très inquiets parce que déjà le peuple juif a perdu par les mariages mixtes plus que ce qu'il a perdu dans la Shoah. Et on pense que d'ici 20 à 25 ans, la communauté juive en Amérique par exemple, ben, ce sera une communauté fantomatique. Okay? Quelques familles qui continueront à être juives parce qu'ils vont à la synagogue ou bien parce que le goût de la soupe du vendredi soir, c'est le goût de la soupe juive et pas une autre. Bon. Et alors, comment ça se passe? Je vais essayer de vous décrire la scène. N'identifier avec personne parce que c'est trop évidemment identifiable. Imaginez une famille qui arrive, une famille juive qui arrive soit d'Europe centrale, soit d'Afrique du Nord. Et dans un style différent, d'un côté, la langue ancestrale c'était le yiddish, de l'autre côté c'était le judéo-arabe, mais on peut multiplier par d'autres exemples, avec un père de famille qui a à résoudre des problèmes difficiles. Insertion dans la société française, promotion économique, promotion sociale, tous les problèmes qui vont avec, et les enfants eh bien, sont en présence d'une équation d'identité schizophrénique. C'est-à-dire, dans la maison, c'est la consigne, tu es juif, attention, on ne fait pas ça à ta grand-mère. Mais en même temps, vous avez compris quoi ça? En même temps, par rapport à la cité française, fais attention, tu es français, et si jamais on te dit que pas, œil pour œil dans le problème. Et vous savez très bien que c'est cette problématique. Et alors, finalement, l'enfant est soumis à une frustration affective colossale. En général, on finit par l'appeler François. Je vais être sûr. Et bien, un jour, il ramène une Françoise à la maison, tout simplement. Et alors, à ce moment-là, le père tombe en syncope, et il dit, mais c'est pas ça que je voulais, mais c'est ça que tu as fait. Vous comprenez? Et y a-t-il moyen de faire autrement? Je ne sais pas. Est-ce que la situation peut être...